pendant 3 ans, tout tournait autour des traitements de fertilité, de « je suis peut-être enceinte, puis je ne sais pas », d'essayer de maximiser nos chances et tout ça. Donc vraiment, je portais attention à tous les petits signaux de mon corps. C'était rendu presque maladif, mais quand je dis que mon corps était vraiment au centre de tout, puis après ça, bon, il y a eu les grossesses, les allaitements et tout ça. Donc encore là, c'était très physique dans ma vie, traînement et tout. Donc, puis là, ben, tu sais, la quarantaine, on ne se cachera pas. C'est une période qui n'est pas toujours facile pour les femmes, particulièrement. T'sais, personnellement, moi, je sais que je suis en plein dans la préménopause à côté, puis ça change beaucoup de choses dans ma perception de moi-même, dans, encore là, comment j'habite mon corps, comment je deal avec ça, puis comment je réapprivoise mon corps, parce que je peux pas dire je vais revenir comme avant, puis quand ça va être comme avant. Non, ça sera jamais pareil. Il faut continuer à apprendre tout le temps, à changer, puis à pas regretter ce qu'on avait avant, mais juste à aimer ce qu'on a maintenant.
Bienvenue au 25e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Constance Lefebvre, mon invitée d'aujourd'hui, n'a pas attendu la quarantaine pour se redéfinir. On pourrait dire qu'elle est une touche-à-tout professionnelle. Je n'avais jamais auparavant entendu quelqu'un de notre génération me dire que dès le cégep, elle aspirait à devenir travailleur autonome. Ironie du sort, après avoir travaillé à son compte comme graphiste et entraîneur personnel, en plus d'avoir eu une entreprise de fabrication de porte-bébés, Constance est aujourd'hui employée dans le réseau de la santé. Au fil de la conversation, nous explorons entre autres son rôle de mère alors que ses garçons deviennent des hommes, ce qui l'a amené à devenir athlète sur le tard, un changement surprenant pour quelqu'un qui détestait les cours d'éducation physique au secondaire, et comment une opération au cerveau, alors qu'elle avait 3 jeunes enfants, a changé sa perspective sur la vie. Merci de partager ce moment avec nous. J'accueille aujourd'hui Constance Lefebvre au micro de La Quarantaine. Bonjour Constance.
Bonjour Brigitte.
Ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, mais juste pour vérifier que tu es éligible, il faut que je te demande ton âge. Quel âge as-tu?
J'ai 45 ans aujourd'hui.
C'est pas ta fête aujourd'hui.
Non, je veux dire, en ce moment,
j'ai... Je trouvais que ça aurait été un beau cadeau de fête, mais non, OK. Je suis contente que tu sois là et que tu sois éligible. J'aimerais qu'on commence en donnant à nos auditeurs et auditrices une opportunité d'ouvrir une fenêtre sur ta vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ton quotidien? On est en début 2023. À quoi ça ressemble ta vie au jour le jour?
Alors, en ce moment, je suis maman de 3 grands garçons. Mon plus vieux va avoir 17 ans dans quelques semaines, un autre de 14 ans et mon plus jeune de 11 ans. Comme travail, je suis agente administrative pour le CIS de ma région. Je suis aussi, dans mes temps libres, coureuse. J'aime beaucoup m'entraîner. J'ai été entraîneur, mais je ne le suis plus. Donc, j'essaie quand même de garder un mode de vie actif. Donc, ça résume pas mal ma vie en ce moment.
Wow! Les grands-enfants, moi, c'est un mystère qui me turlupine. Je suis curieuse d'en apprendre plus sur ce que c'est la vie avec... Ben, t'as pratiquement 3 ados, là. Celui de 11 ans, il doit s'approcher. Qu'est-ce que c'est le rôle au quotidien de la mère de 3 gars de cet âge-là?
Oh mon Dieu. Ben, je pense que rendu à cet âge-là, c'est plus de l'accompagnement puis de vraiment les amener eux-mêmes à prendre leurs décisions. On n'est plus là pour les materner tant que ça. Là. C'est plus comme quand ils sont tout petits puis que là, vraiment, ben, c'est sûr qu'il faut assurer leur sécurité, leur fournir un toit au-dessus de leur tête et tout ça. Mais je pense que c'est plus de les accompagner dans leurs réflexions puis dans leur... ils découvrent un petit peu leur personnalité en même temps que nous. Donc, je trouve ça vraiment génial là, de les voir s'épanouir comme ça, de penser au petit garçon qui a été il y a quelques années, puis de voir maintenant là, quel grand homme il est en train de devenir. Là, c'est vraiment le fun.
Est-ce que tu les vois même au quotidien? Tu sais,
Si je les vois, ben là en ce moment, je travaille de soir, fait que je les vois très peu, mais ça va changer éventuellement. Mais oui, moi j'ai toujours été très proche de mes enfants. J'ai travaillé longtemps à mon compte dans le but justement d'être là pour mes enfants. Donc c'est très important pour moi. Puis oui, on fait beaucoup d'activités ensemble, on discute ensemble. Je trouve qu'on a quand même encore une place. C'est sûr qu'il faut leur laisser plus de place là, quand ils ont 16-17 ans. Là, ils ne veulent plus tout le temps maman dans leurs pattes, là, mais c'est important d'être là puis de jaser avec eux. Puis je trouve qu'on a des conversations presque d'adultes maintenant ensemble. Puis c'est vraiment le fun.
Ça doit être super intéressant. J'aime ça. 17 ans, ça veut dire qu'est-ce qu'il est au cégep déjà?
Non, il va avoir 17 ans. Là, il n'y a pas encore, mais il s'apprête à s'inscrire au cégep d'ici quelques semaines, là. C'est vraiment, ça me donne un coup de vieux, mais en même temps, je trouve ça excitant pour lui, là. J'ai tellement adoré le cégep, moi, que j'ai hâte pour lui, là.
Wow. OK. Ben, écoute, on va en parler. Puis tu me dis vite, vite, qu'est-ce que ça fait une agente administrative dans le secteur de la santé?
Ça dépend vraiment de où on est posté. Comme en ce moment, moi, je travaille dans un hôpital, donc ça va être beaucoup de la gestion de dossiers, ça va être d'accueillir les patients, d'accueillir les familles et tout ça. Il y a des agentes administratives un petit peu partout, là, mais dans le fond, c'est un petit peu les rôles de réception, le travail d'administration, mais sans que ce soit du secrétariat. Donc, on est vraiment le lien entre les familles, les patients et le personnel de la santé.
Est-ce que c'est plutôt un travail en situation de, je ne veux pas dire de crise, mais... Est-ce qu'il y a ce genre d'urgence-là dans ton travail ou c'est plutôt des situations prévisibles, disons?
Encore là, ça va dépendre beaucoup de l'endroit où on est posté, mais oui, c'est sûr qu'il y a un petit peu de situations d'urgence des fois, mais c'est beaucoup, je te dirais, du travail routinier, du travail de bureau, donc ça reste prévisible. C'est pas moi qui ai la pression, là, c'est plus le personnel de la santé. Moi, je suis là vraiment pour les aider puis leur alléger leurs tâches administratives parce que Dieu sait qu'il y a du papier et des formulaires à remplir dans les hôpitaux, des fax et tout ça. Donc, c'est pour essayer de leur alléger leurs tâches un peu.
Je veux juste clarifier, là, on est en 2023, mais oui, il y a des fax encore qui s'envoient dans le milieu de la santé, c'est vrai?
Eh oui, mais tu sais, il ne faut pas penser non plus que c'est le fax avec le téléphone dessus des années 80-90. Là, c'est vraiment, c'est que les documents sont numérisés et sont reçus. Dans le fond, nous, on le numérise sur notre imprimante, puis c'est imprimé sur l'imprimante de quelqu'un d'autre. Mais oui, comme c'est des documents qui sont remplis à la main, on n'a comme pas le choix de les numériser ou de les faxer comme ça. Eh oui, en 2022. 23 encore.
Ben oui, OK. Alors, c'est noté pour les archéologues qui écouteront ce podcast dans une centaine d'années. On s'en servira encore. Mais non, c'est vrai, il y a quand même une place pour ce genre d'envoi-là. OK. Ben écoute, j'aimerais qu'on recule un peu pour parler d'où tu viens. Décris-moi au sens large tes origines. Je te suis à partir de là.
Hey mon Dieu, j'ai tellement pas des origines extraordinaires. Je suis une petite fille de Longueuil, j'ai grandi à Longueuil, j'ai vécu presque toute ma vie à Longueuil, sauf que quelques années à Brossard, là, j'ai eu une petite rechute, puis après ça, je suis revenue à Longueuil.
C'est loin.
Oui, je ne me suis pas tant éloignée, en fait, mais c'est ça, je suis une petite fille de la Rive-Sud. J'ai grandi dans une famille nucléaire, j'ai deux frères, un plus vieux, un plus jeune, donc je suis prise entre les deux. Je suis une middle child, tout ce qu'il y a de plus classique. Mon père était informaticien, ma mère... elle a porté plusieurs chapeaux. J'ai eu la chance, le privilège d'avoir une maman qui était à la maison quand on était petit. Donc, moi, j'ai vraiment grandi avec... Je marchais jusqu'à l'école primaire, je revenais dîner à pied à la maison. Ma mère nous avait préparé notre dîner, on retournait à l'école primaire et tout ça. Je trouve que c'est quelque chose qui... pas qu'il s'est perdu parce que c'est pas mauvais ce qu'il a remplacé, mais en même temps, ça a beaucoup modelé la maman que je suis devenue. Éventuellement, ma mère est retournée sur le marché du travail quand les trois, on est entrés au secondaire, mais ça a beaucoup, je trouve que ça a aidé mon enfance, ça m'a accompagnée vraiment d'une belle façon, je trouve que c'est une belle chance, mais sinon, autrement, elle a été professeure, elle a été professeure de dentelle au fuseau, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent.
Wow!
Puis, ben, surtout, elle a été chauffeur d'autobus. Maintenant, elle est à la retraite, mais elle a été chauffeur d'autobus pour le réseau de Longueuil pendant très longtemps.
Deux carrières vraiment différentes, la dentelle au fuseau puis chauffeur d'autobus.
Ah, oh, ma mère a tous les talents.
J'aimerais ça avoir un autre podcast pour interviewer ta mère parce que c'est pas un secret, moi, les questions de parcours de carrière m'ont toujours fascinée. Voilà, celle-là, j'aime beaucoup. J'ai une amie dont le conjoint était coiffeur et plus tard, il est devenu monteur d'acier.
OK.
Donc, ça aussi, c'était pas mal différent.
C'est assez opposé.
Oui, alors j'aime ça le contraste. Parle-moi un peu de ta vie, si on peut dire, parascolaire, quand tu étais petite, à quoi ça ressemblait, quand tu n'étais pas à l'école?
Ben, moi, je viens d'une famille qui est très, très curieuse. On a toujours été des touche-à-tout chez nous. Quand j'étais au primaire, j'avais des cours presque tous les soirs de la semaine. J'avais des cours de ballet jazz, des cours de danse folklorique, des cours de dessin. J'étais dans les Jeunettes. J'ai fait des cours de couture. J'aimais vraiment toucher à tout, même si je n'étais pas bonne dans tout ça, mais j'aimais ça. Puis, je pense qu'on a tous fait ça chez nous aussi. J'ai jamais été sportive, que ce soit au primaire ou au secondaire. Puis je pense que c'est important de le mentionner maintenant parce que je le suis devenue éventuellement. Puis je pense que c'est important de se rappeler que c'est pas parce que nos enfants ne bougent pas qu'ils ne bougeront jamais. Mais c'est pas mal ça, mon enfance, très, très, un petit peu partout, d'essayer des choses. Puis si j'aime pas ça, j'arrête, je fais d'autres choses. On a toujours fait ça chez nous.
Hey, c'est le fun. Est-ce que tes frères étaient comme toi? Oui, c'est la même
Ben, mes
chose.
frères aussi ont fait des cours de danse folklorique. Ça, je pense que ben, tout le monde qui vient de Longueuil a connu les mutins de Longueuil, là. Ça fait vraiment partie de notre enfance. On a fait de la danse pendant très longtemps, mais oui, du ski, du badminton. Eux faisaient plus de sport que moi, là, du soccer, du hockey, du baseball et tout ça. Mais en même temps, tous les intérêts qu'on avait, là, on pouvait. Tu sais, mon père était un maniaque d'histoire, il jouait du piano, il s'intéressait à toutes des cartes géographiques, il dessinait ça pendant des heures. Donc, on est des gens qui étaient très curieux, très créatifs, mais peut-être pas du côté artistique, sauf ma mère, là, vraiment, qui, elle, est très, très artistique, qui a tout fait avec tout fabriqué avec ses mains. Donc, ça aussi, ça a forgé la personne que je suis devenue parce que je suis encore une touche à tout, puis je suis mes passions comme elles vont et viennent dans ma vie.
J'aime ça, la variété, c'est le sel de l'existence, c'est quoi déjà? Comme on dit, mais non, j'aime ça. Les mutins de Longueuil, je prédis qu'il va y avoir une augmentation des visites sur YouTube de gens qui cherchent
Il existe
l'information.
encore d'ailleurs, l'école
Pour
existe
vrai?
encore. Ah oh, oui, ça fait, je pense que ça fait 75 ans que ça existe, cette école-là. Ma mère avait fait partie de la troupe aussi quand elle était jeune. C'est une institution à Longueuil, là.
OK, hey, je vais aller voir ça quand on va terminer. Ça m'a manqué. J'ai fait de la danse, j'ai fait du jazz aussi, mais je n'ai jamais fait de danse folklorique, mais je venais pas de Longueuil. Ça doit être pour ça. Parle-moi de ce qui reste de tout ça dans ta vie d'aujourd'hui. Quelle connexion il reste, tu penses, entre comme le parcours de le quotidien de ton enfance et ta vie d'aujourd'hui?
Ben, je pense que j'ai gardé cette curiosité-là, puis ce désir d'essayer quelque chose, puis de pas avoir peur d'échouer ou de pas aimer quelque chose. Parce que souvent, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent parce qu'ils disent, oh, mais t'as coup, je suis pas bon. Mais c'est pas grave, là. T'sais, c'est ça. Faut pas avoir peur d'échouer. Au moins, on aura essayé. Puis j'ai transmis ça à mes enfants aussi, qui essaient tout, qui aiment pas tout, qui sont pas bons dans tout, mais qui au moins y essaient. Écoute, la table de salle à dîner chez nous, elle est toujours couverte de 66 000 projets, des trucs de jeux de société, des dessins, des constructions, des morceaux de musique. Il y a de tout ici. Puis moi, je laisse le bordel créatif aller. Là, je ne suis pas une madame qui va ramasser tout ça puis garder tout parce que je pense que c'est important de laisser ces cerveaux en ébullition-là travailler puis se construire comme ça, là. Fait que c'est ce qui reste là, dans le fond. J'ai gardé toute cette curiosité-là pour la transmettre à mes enfants. Puis mon conjoint est comme moi aussi. Donc vraiment, on a des enfants avec des cerveaux incroyables.
Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Qu'est-ce qui t'arrive après? Qu'est-ce qui t'arrive quand tu commences à grandir? On n'arrête jamais, mais Parle-moi un peu plus de ton adolescence puis du début de l'âge adulte, peut-être.
Bien, je te dirais que le secondaire, ça n'a pas été une partie de ma vie où vraiment... Si tu me demandais quelle a été la partie la plus heureuse de mon enfance ou de ma jeunesse, c'est pas nécessairement le secondaire. Pas que j'ai été malheureuse, mais c'est pas mon bout préféré. Ça a été comme plutôt une transition, je dirais, entre vraiment l'enfant que j'étais au primaire, puis de me retrouver. C'est vraiment au cégep où j'ai découvert qui j'étais, puis où je me suis plus affirmée. Moi, j'ai étudié, dans le fond, j'ai fait un DEC technique en infographie au Collège Hanssic. Puis, je suis allée dans ce domaine-là. Moi, mon but, c'était vraiment de travailler de la maison pour être avec les enfants. Ça avait toujours été mon ambition. Puis, je trouvais que c'était un métier qui pouvait très bien se faire de la maison. Je voulais être travailleur autonome. C'était vraiment mon rêve. Puis, c'est au cégep que j'ai rencontré mon conjoint avec qui je suis encore aujourd'hui. Ça va faire, 26, 27 ans dans ce coin-là.
Il n'y a pas beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit qu'ils avaient une idée si claire que ça, je suis pas mal fascinée par ça, de leur avenir professionnel quand ils ont commencé le cégep. Parle-moi un peu de comment cette idée-là t'est venue de faire un DEC en infographie. Un DEC aussi pour une petite fille de la Rive-Sud, ça veut dire que tu n'allais pas à Édouard-Montpetit, tu allais plus loin. Déjà, tu avais cette idée-là de travailler de la maison, les enfants, puis tout ça. Moi, je trouve ça fascinant. Parle-moi un peu plus de cette décision-là.
Bien, j'ai toujours été très autodidacte. Je ne suis pas quelqu'un qui aime demander de l'aide, qui aime poser les questions. Tu sais, j'aime mieux trouver les réponses moi-même. Je pense que ça me vient de cette curiosité-là aussi. Puis, dans le fond, au secondaire, j'étais dans le comité de l'album de finissant, puis j'ai découvert l'infographie et le graphisme de cette façon-là et j'ai vraiment trippé. J'ai toujours été une fille d'informatique, là, de par mon père qui est informaticien, on a toujours eu des ordis chez nous, donc j'ai toujours été très à l'aise avec l'ordinateur et tout ça. Puis il y avait comme un côté informatique puis un côté artistique qui venaient ensemble dans l'infographie, puis ben ce deck-là se donnait seulement au Collège Hanssic. C'était un nouveau DEC qui a commencé l'année où j'ai commencé, dans le fond, parce que c'était une transition entre les métiers traditionnels puis justement l'arrivée de l'informatique et les logiciels et tout ça. Donc, c'est pour ça que je suis allée au Collège Hanssic. Et non, effectivement, c'était pas à côté de Longueuil. Là. Je faisais ça en autobus, métro à tous les jours. Donc, je lisais énormément parce qu'il n'y avait pas de... On n'avait pas de téléphone intelligent dans ce temps-là puis de tablette et tout ça. Donc, je lisais. Je passais mes 2-3 heures de transport en commun à lire.
Wow, tous les jours. Puis, ouais. Tu avais déjà pensé à fonder une famille à ce moment-là?
Bien, je ne te dirais pas au départ du cégep, mais vers la fin, comme j'étais déjà avec mon conjoint à ce moment-là, c'était pas quelque chose pour tout de suite. Mais je me disais, éventuellement, je vais pouvoir faire ce travail-là de la maison et être là pour mes enfants, comme ma mère avait été là quand j'étais petite. Donc, pour moi, c'était comme le meilleur des deux mondes, là, parce que dans le fond, ce n'est pas tous les métiers qui se font de la maison, même si on s'est rendu compte aujourd'hui, après la pandémie, que beaucoup d'emplois se faisaient finalement de la maison, mais dans ce temps-là, ce n'était pas quelque chose qui était très répandu. Donc, moi, je trouvais que c'était vraiment une belle façon de continuer d'avoir une carrière professionnelle parce que oui, ma mère a été là à la maison, mais elle n'avait pas de carrière à ce moment-là. Elle avait tout mis sur pause pour s'occuper de ses enfants, mais moi, ce n'était pas un sacrifice que j'étais prête à faire à ce moment-là. Donc, je trouvais vraiment que ça donnait un bel équilibre.
Eh bien, j'aimerais que tu me transportes un peu, qu'on passe à cette phase-là de l'entretien où on parle des choix ou des moments charnières de ce qui vient dans, on dirait ça comme ça, l'âge adulte, qui te transporte de là où tu étais quand tu as fait ton DEC en technique d'infographie. C'est vrai, je me souviens là, que c'était un nouveau programme. Maintenant, je suis pas mal sûre qu'il s'offre dans d'autres cégeps, pas juste à Hanssic.
En fait, je ne sais pas, mais il a changé de nom plusieurs fois, puis celui que j'ai fait n'existe même plus. Donc,
Bon, alors c'était une opportunité unique peut-être.
Et voilà.
Mais donc, cette transition, ces différentes transitions-là dans ta vie, je sais que tu as fait 2-3 petits changements de carrière en chemin. Donc, parle-moi un peu de ce qui t'apparaît à être les moments charnières les plus importants, les choix que tu as faits, les choix peut-être des fois qui ont été faits pour toi, des événements qui sont arrivés qui ont été déterminants pour ta vie.
Ouais, moi, je dis souvent que j'ai une vie professionnelle comme un chat. Dans le fond, là, j'ai comme cette vie. Je ne sais pas, je suis rendue à combien exactement, là, mais j'ai fait de l'infographie à mon compte. J'ai aussi travaillé pour des entreprises, là. J'ai travaillé dans des imprimeries, dans des agences de publicité et tout ça. Mais dans ce temps-là, les arts graphiques, c'était beaucoup des contrats, de la pige, de l'instabilité. Donc, c'est pour ça que j'étais vraiment décidé à partir à mon compte puis à gérer tout ça moi-même. J'ai fait ça peut-être pendant 12 ans environ, jusqu'à temps en fait que j'aime qu'on ait notre deuxième garçon, puis que je me rende compte que là, ça fonctionnait plus. Souvent, des contrats comme ça, c'est pour avant-hier. Moi, j'avais un bébé qui ne dormait pas, qui avait des besoins intenses, jusqu'au jour où un de mes clients s'est présenté chez moi sans avertir. Il a sonné à la porte. Moi, j'ai répondu avec mon bébé sur moi, tu sais, les traces de rigurgie sur mon chandail, les cheveux tout croche. Puis là, j'ai dit, OK, non, ça ne fonctionne plus. C'est plus ma réalité. J'ai décidé de tout arrêter ça. Puis je me suis dit, je vais vraiment être maman à la maison à 100%. Ça a duré 2 mois à peu près. Et après ça, ben, je travaillais beaucoup, pas travailler, je faisais du bénévolat, beaucoup dans le communautaire auprès de nouvelles mamans, des groupes de soutien en allaitement, des maisons de la famille, des choses comme ça, des tables de concertation. J'ai été dans plusieurs comités administratifs et tout ça, dans le communautaire, vraiment en bénévolat. Puis ça m'a vraiment révélé un monde avec lequel je suis tombée en amour. Donc, de fil en aiguille, sans faire de jeu de mots, je me suis fabriqué moi-même un porte-bébé pour mon bébé qui était à besoin intense, qui avait besoin de toujours être dans les bras et qui était extrêmement lourd parce que mon deuxième garçon était très gros. Puis j'avais mal au dos. Donc j'ai créé mon porte-bébé et comme j'allais à des haltes d'allaitement avec une nouvelle maman, ben là, les mamans en voulaient et tout ça. Donc, éventuellement, j'ai fondé avec une amie du secondaire, une entreprise où on fabriquait des porte-bébés et plein d'autres petits trucs en tissu pour les mamans et bébés. c'est pour ça que, dans le fond, mon maman à la maison, là, il a vraiment pas duré longtemps sans que je parte une autre entreprise. Fait que ça a duré peut-être je dirais un 7-8 ans là, qu'on a fait ça. On a fait des salons, on était distribués dans des boutiques. C'était vraiment le fun. Mais éventuellement, quand mes enfants sont devenus grands, ben, j'étais comme rendue ailleurs. Puis entre-temps, j'avais découvert l'entraînement, le monde du fitness et tout ça, le monde de la course. Donc, je me suis plus dirigée vers ça. Donc, quand je disais que je suivais mon cœur puis mes passions, hein, c'était pas mal ça. Je suis devenue entraîneur, je suis allée chercher mes certifications et tout ça. Donc, je me suis spécialisée vraiment en course à pied, mais je voulais vraiment avoir une approche plus globale. Fait que c'est pour ça que je suis allée chercher des certifications d'entraîneur personnel. J'ai fait ça pendant un bon bout de temps. Ensuite, éventuellement, ben, j'ai eu une offre pour devenir gérante d'une boutique de sport. Donc, je me disais, bon, ben, c'est parfait. Je vais pouvoir comme continuer à être entraîneur, puis quand même avoir une stabilité. Parce que oui, c'est le fun d'être travailleur autonome. Oui, on gère notre horaire et tout ça, mais on porte tout le poids, tous les chapeaux, tout ça, c'est sur nos épaules, notre tête, c'est lourd à la longue. Et si les clients ne sont pas là, c'est à nous d'aller les chercher. Si on veut prendre des vacances, ben c'est à nos frais. Puis on le sait, on ne prend jamais vraiment de vacances quand on est à son compte. C'est 24 heures sur 24. Surtout là, avec les téléphones et tout ça, il faut répondre immédiatement, sinon les gens ils vont ailleurs. Je trouvais ça très dur. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller un petit peu plus dans le commerce au détail. Puis, c'est pas fini. Après 3 ans dans le commerce au détail, la pandémie et tout ça a vraiment mis un clou dans le cercueil. J'ai vraiment pas aimé ce que le monde du commerce au détail est devenu avec la pandémie. J'ai perdu tout ce que j'aimais de ce travail-là. Dans le fond, c'était la communauté que j'aimais, c'était les clubs de course, les conférences, tous les trucs qui étaient à côté de vendre des chaussures, j'avais plus ça. Donc, j'ai décidé, non, c'est fini, je ne veux plus vivre de la course, ça va rester une passion pour moi, mais ça ne sera plus un travail. Donc, je suis vraiment allée complètement ailleurs et c'est comme ça que je suis devenue agente administrative. Donc, quand je dis que j'ai cette vie-là, je ne sais pas, on a compté, on est rendu à combien, là, mais ça doit être à peu près 5-6, là. Il m'en reste plus.
Ouais, c'est assez vrai. Je veux juste faire une petite parenthèse. Je pense t'avoir entendu dire quelque chose, j'espère que j'invente pas ça, là, sur l'impact dans le commerce de détail de la pandémie, sur comment les consommateurs approchaient le commerce de détail? Est-ce que j'ai rêvé ça? Est-ce que tu as remarqué un changement?
Oui, vraiment. Là, l'approche, bien là, c'est sûr que moi, j'ai une expérience d'une boutique. Je ne vais pas généraliser non plus, mais les gens sont. Avec le commerce électronique, on est habitué d'avoir ce qu'on veut tout de suite, immédiatement. Puis si ça ne fait pas notre affaire, on va ailleurs, puis on perd l'approche personnel. Nous, ce qu'on faisait, c'est conseiller les gens. Donc, oui, ça prend du temps, puis on prend le temps, puis les gens étaient plus patients. Il n'y avait aucune considération pour les gens qui les servaient. Bien sûr, c'est pas tout le monde, là, mais de plus en plus. Donc, ce côté-là m'a vraiment, ça m'a déçue beaucoup. Parce que c'est un monde que j'adorais. Moi, j'aime les gens, j'aime parler avec les gens, j'adorais ça. Mais là, c'était trop de la vente. Puis, moi, je ne suis pas une vendeuse. Je suis une conseillère, je vais t'accompagner, je vais t'aider. Puis, si je n'ai pas le produit qu'il te faut, je ne vais pas te vendre d'autres choses que tu n'as pas besoin. Je ne suis pas une vendeuse. Donc, là, ça devenait de la vente, ça devenait des chiffres. Et je n'ai vraiment pas aimé ce que le monde du commerce au détail devenait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir de là. Mais oui, je pense que tu as raison. Là, ça a beaucoup, beaucoup changé.
Wow! Et je dois témoigner personnellement qu'en tant que personne, quand tu as dit mon deuxième bébé qui ne dormait pas, moi, c'était mon premier bébé qui ne dormait pas. Ma fille a été dans un porte-bébé Julie Bulle à partir de sa journée numéro 3, je pense. Mais ce n'était pas un gros bébé. Elle ne pesait même pas 6 livres à la naissance. Wow. Elle était toute recroquevillée dans son affaire. Mais je suis très reconnaissante que vous ayez fait ça parce que ça a été vraiment son porte-bébé préféré en plus.
Ah, oh, ben c'est génial.
Ça a été, ça a été des belles années. Et malheureusement, mon fils a aucun intérêt pour le porte-bébé. Il voulait toujours voir sa sœur. Alors, malheureusement, il s'est promené en poussette tout le reste de sa vie. Mais ça a été... je me demande si... tu mentionnais que tu avais fait de la couture quand tu étais plus jeune. Est-ce que c'était directement lié?
Bien, ma mère fabriquait tous nos vêtements, ou presque, quand on était tout petit. Elle fabriquait nos costumes d'Halloween et tout ça. Donc oui, j'ai grandi avec une machine à coudre tout le temps proche du tissu partout puis tout ça. Donc c'est sûr que quand je suis arrivée devant la machine à coudre pour faire mon premier porte-bébé, je n'étais pas devant de l'inconnu non plus. Je me suis perfectionnée avec le temps, mais ça ne venait pas de nulle part, effectivement.
Tout ça, c'est... Tu as fait plusieurs transitions de carrière, comme tu dis, puis c'est quelque chose de, c'est pas tout à fait unique, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une carrière X, Y, Z et qui ont l'impression de ne pas pouvoir changer, qui ont l'impression d'être embarrés dans leur job, dans leur poste, dans leur titre, dans leur profession, peu importe. Qu'est-ce que tu penses qui t'a permis, qui t'a donné la capacité de dire « Oh non, je vais faire autre chose. » Tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette...
Non, mais tu sais, en même temps, il y en a beaucoup qui décident, qui ont une carrière, puis que ça va être leur lignée, puis c'est ça qu'ils vont suivre, puis jusqu'à la retraite, puis ils se posent pas de questions, puis ils progressent là-dedans. Je te dirais que c'est une chance puis une malchance, mais moi, j'ai comme jamais vraiment eu de travail où je pouvais gravir des échelons. Donc, j'avais moins à perdre aussi à chaque fois. C'est sûr que j'avais bâti une entreprise, j'avais bâti une clientèle et tout ça, mais quand j'ai quitté l'infographie, par exemple, j'étais vraiment à une croisée des chemins où le monde des logiciels changeait énormément et toute la formation que j'avais eue au cégep, ça devenait désuet presque. Il aurait fallu que je refasse, peut-être pas complètement, mais que je me remette à jour. Donc, je me suis dit, OK, est-ce que je suis prête à investir et m'engager là-dedans pour encore un autre 10 ans ou je fais autre chose? Donc, j'ai fait autre chose. Je me suis dit, je vais plonger ailleurs. Même chose pour la compagnie de porte-bébé. Il est venu un moment où il y a des règles et des
les lois, là.
En tout cas.
Des codes de... La chose, c'est devenu de plus en plus formalisé, je pense.
Oui, il fallait vraiment avoir des normes, respecter certaines normes. Il y avait des tests à passer, tester les tissus, tout ça, et ça devenait très coûteux. Et nos compétiteurs, si on veut, c'est des très grosses compagnies, des multinationales et tout ça, contre qui on ne voulait pas nécessairement compétitionner non plus. Donc, encore là, on s'est retrouvé à une croisée des chemins. On s'en va de quel côté? On a décidé de laisser faire ça. Puis, je suis partie, j'ai suivi un autre chemin vers. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est tout le temps un risque. On ne sait jamais où ça s'en va. Ça se peut qu'on se plante complètement. Ça se peut qu'on regrette. Mais moi, j'ai toujours eu tendance à penser que j'aime mieux essayer puis échouer que de ne pas essayer, puis de ne pas savoir, puis toujours me demander, ah, mais si j'avais essayé, qu'est-ce qui serait arrivé? Peut-être que, moi, j'aime pas ça me poser des questions comme ça, puis regretter, puis penser au passé. Fait que je fonçais, puis au pire, ça m'amènera ailleurs, puis on réessayera autre chose. Mais tu sais, encore là, comme je te dis, moi, j'avais pas non plus une carrière de 20 ans dans une entreprise avec les avantages et tout ça, et beaucoup à perdre. Donc, je pense pas que, je pense que ça serait une décision quand même plus difficile à faire pour ces gens-là, mais faut pas hésiter non plus parce qu'on passe tellement de temps à travailler dans notre vie que si on est malheureux dans notre job, je trouve que ça n'a pas de sens. Là, on perd tellement un gros morceau de notre vie à être malheureux. Mieux vaut faire quelque chose qu'on aime, qui est peut-être moins payant, mais au moins qui nous rend heureux. Là.
Je vais te poser la question plus tard, mais je la mets maintenant pour que tu puisses y passer. Est-ce que tu t'es déjà planté? Mais on y revient. Avant, je veux te poser une autre question. Tu mentionnes, donc après justement l'entreprise de couture, tu t'es formé comme entraîneur personnel, puis tu as eu une entreprise dans ce domaine-là pendant quelques années. Parle-moi un peu de cette transition-là, parce que tu as dit au début que tu n'étais pas du tout une personne sportive dans
Non,
l'enfance.
c'est
Qu'est-ce qui t'est
vrai.
arrivé?
Ben, tu sais, comme pas mal toutes les mamans, éventuellement, après avoir eu trois enfants, c'est sûr qu'on se regarde dans le miroir, on se reconnaît peut-être plus. Moi, j'étais très fatiguée. J'avais vécu quand même oui, j'avais eu trois enfants, mais il y a aussi mon père qui est décédé subitement pendant cette période-là aussi, là, quand mon plus jeune avait quelques mois. J'ai déménagé. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements en peu de temps qui ont fait que je me suis retrouvée très fatiguée, très. Vraiment comme vidée. Puis il y a un matin où je me suis dit, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ma santé, que je me sente bien dans ma peau parce que je n'étais plus bien. Puis ce n'était pas une question d'apparence ou de poids ou quoi que ce soit. C'était vraiment comment je me sentais dans mon corps, comment j'habitais mon corps. J'étais vraiment plus bien. J'avais l'impression d'être dans la peau de quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Donc, j'ai commencé à m'entraîner à la maison parce qu'avec des jeunes enfants, un bébé, un autre bébé qui dormait pas, lui, c'était encore pire que le deuxième. Il n'allait pas à la garderie non plus. Donc, il fallait que je trouve une façon de m'entraîner de façon assidue sans avoir à sortir au gym ou sortir dehors courir. Donc, j'ai commencé à m'entraîner à la maison. Écoute, j'ai commencé avec Just Dance, là, tu sais, juste pour te dire comment je suis partie de la base. J'avais le jeu Just Dance sur, je sais plus, sur quelle
Le
console.
Wii ou le Nintendo, quelque chose comme ça.
Genre, puis il y avait des petits entraînements de 15 minutes, 20 minutes. Écoute, je finissais essoufflée en sueur, mais au moins je bougeais puis je me sentais déjà plus vivante à chaque fois que je le faisais. Puis de le faire de façon assidue, ça m'a vraiment montré, ça m'a appris que j'étais quelqu'un qui pouvait être discipliné, qui pouvait dépasser ses limites parce que j'avais jamais eu à le faire vraiment avant. J'ai vraiment découvert une nouvelle personne, puis c'est tout ce côté-là, toute l'assurance que ça m'a donné, que j'ai voulu redonner aux autres. Ben, je me suis dit la même chose que quand j'ai commencé à aider des nouvelles mamans qui allaitaient, puis qui se sentaient tellement perdues, puis tellement pas en confiance. C'était la même chose que je vivais là. Ce que moi j'ai appris, ce que moi j'ai reçu, je veux le redonner à d'autres mamans qui se sentent aussi peut-être étrangères dans leur propre corps, puis de reprendre confiance en elles sans que ce soit encore là par rapport aux apparences, au poids, un six-pack, rien de ça, là. Vraiment juste comme réapprendre à bouger, à être bien, à être fière, à se surpasser. Puis c'est ça qui m'a menée vers l'entraînement et devenir entraîneur.
Wow, ça c'est une. Quand tu le racontes, ma perception, c'est que c'est une peut-être une des plus grosses transitions que tu as faites. Est-ce que tu penses que c'est vrai?
Oui, vraiment, là, c'est, puis ça a été ce qui a vraiment déterminé tout le reste qui a suivi, sans que je devienne quelqu'un d'autre. Je pense que cette personne-là avait tout le temps été là. Je pense juste qu'avec les années, elle s'était peut-être un petit peu perdue. Donc, j'ai retrouvé vraiment la force que j'avais à l'intérieur. Puis oui, ça a vraiment guidé toutes les autres décisions qui ont suivi. Ma perception de mon corps a était au centre de pas mal toutes les décisions ou les événements que j'ai vécu dans je te dirais même les 20 dernières années, là, parce que, tu sais, il y a 20 ans, on a décidé, mon conjoint et moi, de fonder une famille et on a découvert que j'avais des problèmes de fertilité. Donc, ça a pris 3 ans avant que j'aie mon premier garçon. Donc, pendant 3 ans, tout tournait autour de ça. Tout tournait autour des traitements de fertilité, de je suis peut-être enceinte, puis je ne le sais pas. Je peux d'essayer de maximiser nos chances et tout ça. Donc, vraiment, je portais attention à tous les petits signaux de mon corps. C'était rendu presque maladif, mais c'est. Tu sais, quand je dis que mon corps était vraiment au centre de tout, puis après ça, bon, il y a eu les grossesses, les allaitements et tout ça. Donc, encore là, c'était très physique dans ma vie, l'entraînement et tout. Donc, puis là, ben, tu sais, la quarantaine, on ne se le cachera pas. C'est une période qui n'est pas toujours facile pour les femmes, particulièrement. Tu sais, personnellement, moi, je le sais que je suis en plein dans la préménopause à côté, puis ça change beaucoup de choses dans ma perception de moi-même, dans, encore là, comment j'habite mon corps, comment je deal avec ça, puis comment je réapprivoise mon corps, parce que je ne peux pas dire je vais revenir comme avant, puis ah, quand ça va être comme avant. Non, ça ne sera jamais pareil. Il faut continuer à apprendre tout le temps, à changer, puis à pas regretter ce qu'on avait avant, mais juste à aimer ce qu'on a maintenant.
Ouvre tellement de portes. Je sais pas où aller, mais en même temps, il y a une question qui me brûle que je dois te poser. Donc, on s'en est parlé avant. Je sais que ça t'est arrivé. Tu as eu un événement de santé majeur dans ta vie. J'aimerais, si tu es ouverte, que tu m'en parles, que tu nous en parles, puis que partons de là, qu'est-ce qui t'est arrivé?
En fait, en 2015, j'étais en vacances avec ma famille, là, ma famille à moi, mes frères, leurs enfants aussi. Là, on était toute la famille au Nouveau-Brunswick. Et on était au restaurant, on dînait dans un pub irlandais à Moncton. Puis, soudainement, j'ai senti comme si j'avais la tête en dessous de l'eau, comme si tous les sons étaient un petit peu comme feutrés. Puis j'ai regardé mon conjoint et j'ai dit pourquoi ils ont baissé la musique. Et là, il me dit ben, pourquoi tu cries? Pourquoi tu parles si fort? Je dis non, mais pourquoi ils ont baissé la musique? Je ne comprenais pas. J'ai su par après que c'était un aura que j'ai eu, mais bon. Je ne me sentais pas bien. Je ne savais pas trop qu'est-ce qui m'arrivait. Je me suis dit bon, ben, je vais peut-être être malade. Je vais aller à la salle de bain. Puis, tu sais, je ne savais pas trop. Fait que je me suis rendue à la salle de bain. La dernière chose que je me souviens, c'est que j'ai choisi spécifiquement la grande cabine pour personnes handicapées. Je me suis dit, je vais être plus à l'aise. Je me souviens d'avoir fermé la porte et c'est tout. Après ça, j'ai repris conscience. On était en train de me transférer d'une civière à un lit d'hôpital à l'hôpital de Moncton. Donc, ce qui est arrivé, je l'ai su par après. J'ai fait une crise d'épilepsie tonico-clonique, qui appelle une crise complète avec perte de conscience, semi-coma et tout ça. J'avais jamais fait d'épilepsie de ma vie, donc c'était la première fois. J'ai eu une commotion aussi, évidemment, là, parce que je suis tombée, je me suis cognée la tête, on ne sait pas trop où. En fait, c'est parce qu'il y a une dame qui est sortie en courant de la salle de bain, paniquée, que mon chum s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Il est allé voir et c'est ça. Là, j'étais en convulsion et tout.
Wow.
Ouais, fait que ça a été
Ben, t'es
comme
chanceuse que ce
effectivement,
soit
ça
pas un petit restaurant avec juste une petite salle de bain avec la porte fermée. Je me souviens de nos cours de premiers soins qui disaient quand quelqu'un commence à tousser, puis tout ça, laisse-les pas aller aux toilettes parce que la plupart des gens qui meurent étouffés meurent dans la salle de bain d'un restaurant. Tu sais,
j'imagine.
c'est ça.
Puis
Alors,
ben,
ben, je suis contente que t'aies été trouvée tout de suite là, parce que ça aurait pu être
ah ben ça
plus
aurait pu être, ça
catastrophique, là.
aurait pu arriver au volant d'une voiture. J'aurais pu être toute seule à la maison. Tu sais, dans le fond, j'ai été chanceuse dans ma malchance d'être entourée, puis que j'ai été prise en charge assez rapidement. Puis, ben, c'est ça, on a découvert, dans le fond, dans mon lobe temporal gauche, une masse qui est à peu près grosse comme une cerise, là, 2,3 cm. C'est quand même assez gros. C'était pas une tumeur, là, c'était vraiment une malformation. Dans le fond, c'est comme s'il y avait un amas de vaisseaux sanguins. C'est une malformation de naissance qui s'appelle un angiome caverneux, là, puis qui avait saigné. Dans le fond, ça saigne comme à l'intérieur, donc ça grossit, puis ça finit par toucher certaines parties, certains nerfs ou dans le cerveau, puis ça avait causé la crise d'épilepsie. Mais ce n'était pas la première fois que ça saignait, mais c'était la première fois que ça causait ça. Donc, j'ai eu la chance, encore une fois, de tomber sur le meilleur neuro de Moncton, qui est une sommité dans la matière, qui m'a tout de suite référé à Notre-Dame, à une autre sommité. Puis, un mois plus tard, j'ai été opérée pour retirer cette masse-là. Ça a été une opération quand même assez longue, assez complexe, mais j'avais encore là une autre chance. Je crois que mon père veillait sur moi ou quelque chose comme ça, ou un ange gardien. Parce que mon angiome était très bien situé. Il était tout près de ma tempe, donc assez facile à retirer. Ça reste une opération au cerveau qui a des risques, comme toujours. Dans mon cas, c'était beaucoup le langage qui était touché, qui risquait d'être touché, soit ne pas sortir les bons mots ou le mouvement de parler qui était menacé. Ma vision aussi était menacée parce que le nerf optique passait tout près et tout ça. Donc, on m'avait tout énuméré, les dangers et tout. Ils n'ont pas le choix. Ouais, mettons que, tu sais, en un mois, tu passes de « j'ai rien, tout va bien, la vie est belle » à « merde, il faut que je me fasse opérer au cerveau », puis c'est quand même, tu sais, c'est le cerveau, là, c'est dur à concevoir qu'ils vont t'ouvrir le crâne, puis aller jouer là.
C'est assez intime.
Mettons, tu sais. Ouais. Puis, j'avais peur, mais en même temps, c'est drôle parce que la neurochirurgienne m'a dit, bon, c'est l'été, les gens, ils veulent pas se faire opérer, j'aurai une place telle date, est-ce que ça fait ton affaire? J'ai dit, garde, ça va jamais me tenter, fait que allons-y, puis ça se refait. Ouais. Mais si j'avais à le refaire une deuxième fois maintenant que je sais ce que j'ai vécu, là, j'aurais plus peur maintenant. Je pense que le fait de ne pas savoir aussi, ça a aidé. Ça a été une convalescence très difficile. Difficile dans le sens où ben, je ne pouvais rien faire. La lumière me faisait mal, les sons me faisaient mal. J'ai passé 3 semaines à dormir. Je ne faisais que dormir, juste me lever pour aller à la salle de bain. J'étais épuisée puis je dormais pendant 3 heures. Donc, de ce côté-là, ça a été très difficile pour moi, mais aussi pour la famille, parce que mon chum devait tout faire avec 3 enfants. Je n'avais plus le droit de conduire. L'école avait recommencé. Ça a été intense. Mais heureusement, j'étais super bien entourée, puis j'ai très bien récupéré. Puis je pense que j'avais comme une... J'étais inscrite à plein de courses à ce moment-là que j'ai dû tout annuler. Fait que ça m'a motivée. Mon but, là, c'était juste de pouvoir recommencer la course. Je ne pensais qu'à ça. Je me disais, un jour, je vais recommencer à courir. Je vais y aller doucement. Puis éventuellement, je vais faire mon premier demi-marathon. Fait que ça a été ça, vraiment, ma force qui m'a poussée à bien récupérer. Puis je pense, tu sais, je te parlais tantôt de ma relation avec mon corps. Le fait de m'entraîner aussi, souvent j'ai pensé, il y a une personne que j'avais aidée à se remettre en forme qui m'avait dit, moi, ce que je veux, c'est que mon corps soit un tank. Que s'il m'arrive quelque chose, s'il y a une maladie, s'il y a un accident ou quoi que ce soit, que mon corps soit fort pour affronter ça. Puis ça m'était resté en tête, puis je me disais, une chance que mon corps, c'est un tank pour pouvoir passer à travers ça. Je pense que ça m'a vraiment aidée.
Tu avais commencé à t'entraîner, c'est en quelle année à peu près que tu as commencé à courir?
À courir en...
Ou à t'entraîner davantage, en tout cas.
La course, j'ai commencé en 2014, fait que ça faisait même pas longtemps là, que je courais. Ça faisait un an que je courais quand ça s'est arrivé. Puis j'avais jamais couru, je pense que le plus que j'avais couru, c'était 14 km. J'avais jamais couru de demi-marathon. Mais m'entraîner, c'était peut-être 2 ans avant ça, 1 an. Non, ouais, 2013 que j'avais commencé vraiment à m'entraîner plus assidûment. Là, ouais.
OK, donc c'est ça. Tu avais déjà construit une base de force ou de capacité physique, en tout cas accrue comparée à là où tu étais avant.
Oui.
C'est sûr.
Oh, wow.
Heureusement.
Comment ça a changé ta vie? Est-ce que ça a changé ta vie d'avoir cet événement-là, au-delà des répercussions immédiates là, de la chirurgie, puis de la récupération, puis tout ça? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie ou dans la façon dont tu vois la vie à partir de là?
Oui, vraiment. Ça a changé beaucoup ma vision de la santé, mais de notre fragilité aussi. Puis je pense que ça, combiné aussi au décès de mon père quelques années avant, où j'ai vraiment réalisé que le temps... Dans le fond, le temps nous est donné, mais on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Tu sais, souvent, nous, on grandit avec nos parents, nos grands-parents, puis on se dit, il est encore là pour 20 ans. Tu sais, oui, on profite des moments, mais peut-être pas autant que si on savait la date finale. Tu sais, ça, c'est un peu fatidique, mon affaire, là, mais tu sais, ça m'a fait réaliser que mon père, que je croyais avoir encore avec moi pour 15, 20 ans, non. C'était fini là. Fait que ça pouvait être la même chose pour moi. Dans le fond, tu sais, avoir été un peu plus malchanceuse cette journée-là, ça aurait pu finir là, puis d'attitude, pas d'avertissement, pas rien. Fait que ça a vraiment changé ma façon d'approcher les choses, tu sais, sans devenir oh, faut que je vive à 100%, puis let's go, on saute en parachute, puis en bungee, mais tu sais, juste de profiter de chaque moment, puis de justement pas s'empêtrer dans quelque chose qui nous rend malheureux. Tu sais, on a tellement peu de temps qui nous est donné qu'on ne peut pas le passer à être malheureux, surtout si on peut choisir autre chose. T'sais, je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas choisir. Là. Il y a des choses dans lesquelles on est qui nous arrivent, mais il y a des choix qu'on peut faire aussi qui ne sont pas nécessairement faciles, j'en consens, mais que si on est malheureux, il faut vraiment faire quelque chose. Donc ça m'a vraiment dirigé vers ça, puis vraiment, ça m'a aussi appris à encore plus me dépasser, puis encore plus me donner des objectifs, parce que voir plus loin, puis voir comme se donner vraiment quelque chose à atteindre, je trouve que ça aide vraiment à rester motivé, à rester actif, à rester heureux aussi. Donc oui, c'est certain que ça a été un événement qui a changé beaucoup de choses, pas physiquement tant que ça, parce que je n'ai pas de répercussions aujourd'hui, mais vraiment mentalement énormément.
Merci pour ça. J'apprécie le rappel énormément parce que, comme tu le dis, statistiquement, je dis toujours dans ce podcast-ci, on est à peu près à mi-chemin dans la vie. C'est les statistiques disent qu'il nous en reste à peu près autant qu'on en a eu derrière, là, tu sais, plus ou moins 5 ans. Mais en pratique, on ne sait pas. Tu sais.
Puis on ne sait pas comment on va les vivre ces années-là non plus. Tu sais, c'est... Souvent, oui, on va se rendre à 85 ans, mais peut-être que les 15 dernières années vont être malades et
donc, malheureux, c'est ça?
Idéalement, non, mais ouais. Des fois, il y a des problèmes de santé qui se présentent. Donc, c'est sûr que d'en profiter là, pendant qu'on est en santé, ou si on ne l'est pas, de s'arranger pour l'être aussi. Je crois beaucoup en la prévention aussi. Je trouve que malheureusement, on met très peu d'emphase là-dessus dans notre domaine, dans notre réseau de la santé. On est beaucoup dans le patchage, puis dans le... On va guérir ou on va calmer les symptômes, mais il faudrait reculer un petit peu plus, faire plus de prévention. Donc, je pense que prendre soin de sa santé, de bouger, d'être heureux, ça joue énormément sur notre santé physique.
Je l'ai promis, je suis ma promesse. Tu fais des choix, tu changes de carrière, tu prends des risques. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te planter, de prendre une décision qui s'est avérée finalement être pas idéale après coup et de changer de direction à nouveau?
Probablement. J'en ai pas qui me vient en tête précisément. Je te dirais qu'avant de décider de changer de carrière puis de m'en aller vraiment plus vers l'administration, j'ai tenté de changer d'employeur parce que je pensais que le problème venait de là, mais c'était pas le cas. C'était vraiment le domaine où j'étais, c'était vraiment plus... je me suis plantée à cet endroit-là, mais ça a été une erreur payante, si on veut, parce que ça m'a amené à autre chose. Tu sais, quand je dis qu'il ne faut pas avoir peur de se planter, c'est ça aussi. Dans le fond, ça nous fait peut-être réaliser que c'était peut-être juste pas ma place, puis je suis mieux ailleurs. Donc, mais c'est sûr que je me suis plantée là, vraiment souvent. Là, mais tu vois, je les efface de ma mémoire ces fois-là.
Ça ne devait pas être si pire que ça.
Non, c'est sûr. Peut-être pas, oui.
Ah, si ça te revient, tu m'en reparleras. Je demeure ouverte. Quand on regarde ton parcours, tu as beaucoup de travail autonome, de petites entreprises, puis tout ça. Puis là, tu te retrouves dans le secteur de la santé qui est, je pense que c'est vrai, là, le plus gros employeur du Québec. C'est un gros changement. Comment tu vis ça, être une employée syndiquée de surcroît, je pense, comparativement à cette réalité-là qui a été la tienne pendant les premières 20 années de ta carrière?
Écoute, je suis peut-être un extraterrestre, là, mais pour moi, maintenant, après avoir été travailleur autonome pendant si longtemps, être employée, syndiqué, c'est tellement relaxant, c'est tellement libérateur. En fait, une grosse partie de ma décision de m'en aller dans le domaine de la santé, donc, ben oui, tu sais, la santé m'a toujours intéressée. Puis, je me suis demandé est-ce que je m'en vais étudier encore une fois. Mes enfants, comme je disais tantôt, tu sais, il y en a un qui s'en va au cégep bientôt et tout ça, c'est leur moment. C'est leur période où les études vont être importantes ou, tu sais, on ne se le cachera pas, ça coûte cher là, d'aller au cégep, d'aller à l'université, puis on a trois enfants. Donc, je ne voulais vraiment pas que mes choix empiètent sur les leurs. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas retourner à l'école parce que j'ai toujours, ben pas toujours, c'est pas vrai, mais depuis plusieurs années, je rêve de devenir physiothérapeute, mais c'est un domaine extrêmement contingenté et qui me demanderait un gros investissement de temps, d'argent et tout ça. Donc, on n'était pas prêts à faire ce saut-là, et c'est correct, je le regrette pas du tout. Mais une grosse partie de ma décision, donc, était, je me disais, il me reste encore comme 20 ans à travailler. J'ai été travailleur autonome, donc pas de fonds de pension, pas d'avantages, pas de vacances payées. J'ai jamais eu de vacances payées de ma vie là, jusqu'à maintenant. Donc, juste ça, ça a peut-être l'air un petit peu superficiel, mais pour moi, c'est tellement un gros stress de moins. On ne manquera jamais de travail. Dans le domaine de la santé, il va toujours y avoir du travail. Donc, j'avais besoin de cette stabilité-là pour pouvoir me donner ailleurs dans ma vie, pour pouvoir vraiment mettre mon énergie. C'est sûr que je mets de l'énergie dans mon travail, mais quand je finis à la fin de ma journée est finie. J'ai plus à y penser. J'ai pas, quand on est travailleur autonome, on y pense tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On est couché dans notre lit, puis là, faut que je fasse ça. Puis on a une to-do list qui n'arrête jamais. Donc, ça, j'étais plus capable. J'étais fatiguée. Donc, je trouve ça vraiment très, très relaxant maintenant.
Je te comprends. Je vois comment ça peut devenir un choix très attirant à beaucoup d'égards. Puis c'est quand même, c'est pas comme si tu mettais des clous dans une gugus inutile, là, tu sais. Il y a des ramifications existentielles vraiment importantes pour les gens avec qui tu travailles au jour le jour, là. C'est essentiel.
Oui, et puis c'était important quand même aussi de travailler dans un domaine où je sentais que je faisais une différence. Elle est peut-être petite, ma différence, la différence que je fais. Je ne suis pas une infirmière, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas une chirurgienne, mais je suis un morceau du casse-tête, puis c'est un casse-tête qui est super important. Donc, pour ça, je trouve que c'est très valorisant, puis ça m'a vraiment aidée dans ma décision.
Tu permets aux infirmières et aux médecins de faire leur travail aussi, tu sais.
Oui, j'essaie.
Moins de paperasse, de faxer moins de paperasse.
Éventuellement, on sera peut-être numérique, qui sait, mais pour l'instant, c'est ça.
On travaille là-dessus.
Ouais.
J'aimerais te demander aussi ta plus grande fierté quand tu regardes en arrière avant qu'on se tourne vers l'avant. Quand tu penses à l'ensemble de ton œuvre jusqu'à présent, ta plus grande fierté, c'est quoi?
Bien, c'est sûr que d'emblée, je vais dire mes enfants. C'est de un, je suis fière parce que, tu sais, comme j'ai mentionné, on a fait face à des problèmes de fertilité, mon chum et moi. Ça a pris 3 ans pour le premier, ça a été long aussi pour les deux autres, là, mais de ne pas avoir abandonné. Parce qu'on aurait pu, puis il n'y a personne qui aurait pu nous blâmer aussi de laisser tomber. C'est très difficile, les traitements de fertilité, c'est très demandant, c'était cher à l'époque parce que ce n'était pas couvert. Donc, je suis fière d'avoir tenu le coup. Puis, je suis fière aussi en même temps des garçons des hommes qui sont en train de devenir. Je pense qu'on a fait une bonne job. C'est sûr qu'on n'est jamais des parents parfaits. Il y a toujours des choses qu'on se dit, oh, j'aurais dû faire ça autrement. Mais vraiment, je les regarde grandir, puis je les regarde être les êtres extraordinaires qu'ils sont, puis je ne peux pas ne pas être fière. Mais si j'enlève ça, admettons, si je vais vraiment plus moi, ma personne, je te dirais que d'avoir réussi à courir un marathon, mais pas seulement un, mais un marathon. Si tu m'avais dit ça là, quand j'avais 15 ans, là, qu'un jour j'allais courir un marathon alors que j'avais de la misère à faire le 1600 mètres au secondaire, je t'aurais jamais cru. Mais de m'être rendue là dans ma vie, c'est vraiment une très grande fierté. Je pense qu'il faut l'avoir couru pour le savoir. Puis tu sais, je dis pas ça pour me péter les bretelles, mais c'est un marathon, c'est une course, mais c'est tout l'entraînement qui est avant. Puis c'est ça, pour moi, qui est plus important, qui me rend le plus fière. Quand j'arrive à la course finale, pour moi, c'est la cerise sur le sundae, c'est le bonbon à la fin. Mais tout le processus pour se rendre, de réussir à faire tous les entraînements, peut-être pas nécessairement de façon parfaite, puis des fois on coupe, puis des fois on change, parce que hein, la vie hein, à travers, mais de se rendre à un marathon, là, c'est pour moi, là, qui jamais ne faisait de sport avant, ça a été une fierté incroyable.
Et je dois dire, ça va peut-être être notre charnière pour commencer à parler d'avenir, mais reculons un petit peu. Un, tu n'en as pas fait juste un marathon. Puis deux, tu n'as pas exactement fait des marathons relax. tu es toujours une excellente coureuse. Tu as fait des marathons pas mal rapides. Comment tu vis ça, cette idée-là de la performance dans ton sport?
Ça a vraiment changé dans les dernières années, vraiment beaucoup. Effectivement, j'ai quand même progressé assez rapidement, puis je me considère chanceuse d'avoir pu faire ça parce que je sais qu'il y a des gens qui vont s'entraîner pendant des années puis atteindront pas certains chronos. Puis à ce moment-là, dans ma vie, c'était super important, la performance, mais pour moi. Je me suis jamais comparée aux autres. C'était jamais pour battre quelqu'un. C'était pas pour atteindre une position ou un podium ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment un objectif par rapport à ce que je croyais être capable de faire, puis d'y aller juste une coche de plus. Parce qu'on se croit tout le temps, on pense tout le temps qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, mais dans le fond, on réussit si on essaye. Puis tu sais, quand j'entraînais des gens, je leur disais un objectif, il faut que tu aies 85% de chances de le réussir, mais il reste un 15%, ou ça se peut que tu ne l'atteignes pas, ton objectif. Parce que si tu es 100% sûr de l'atteindre, ton objectif, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas rien qui va te pousser au-delà du confort. Tu sais, c'est cliché, mais il faut que tu sortes de ta zone de confort. Fait que la performance, au départ, était très importante pour moi parce que j'avais quelque chose à me prouver. Éventuellement, c'est sûr que l'âge nous rattrape ou je ne sais pas, on va mettre ça sur le dos de la préménopause. Le corps suit moins ou j'ai peut-être moins besoin de pousser autant qu'avant, je ne sais pas, mais j'ai vraiment beaucoup ralenti, pas juste en termes de chrono, mais en termes d'intensité puis de temps investi aussi dans les derniers temps. Puis les derniers marathons que j'ai courus, je les ai vraiment plus faits pour l'événement, pour vraiment profiter du moment parce que, bon, j'ai fait Chicago au mois d'octobre, puis Chicago, c'est un événement énorme. Juste d'être là puis de vivre ça, on s'en fout du chrono, là. C'était juste comme incroyable comme événement. Fait que ça a vraiment changé ma perspective beaucoup. Mais je pense que j'avais besoin de vivre un moment de performance, de vraiment me pousser au max pour en arriver là. Je pense que j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec la performance puis le chrono. Puis là, je passe à autre chose. Je passe au pace du bonheur pour emprunter l'expression de quelqu'un.
Puis comme ça me semble plus serein comme approche. Est-ce
que oui, je pense que oui. Plus zen, effectivement.
Donc, comment, on va commencer par là, comment perçois-tu, comment vois-tu cette idée-là d'avoir un corps pour le reste de tes jours? Comment tu te prépares à ça? Comment tu vis avec ça?
Et c'est pas évident, hein? La quarantaine, là, je t'avoue que je suis entrée dans la quarantaine là, en pleine forme, comme un tank, justement. Puis, ouf, dans les deux dernières années, je te dirais que mon corps m'a rappelé mon âge. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui a eu peur de vieillir ou quoi que ce soit. C'est sûr, tu sais, je me regarde, puis ah, bon, j'ai des rides, mais tout ça. Mais pour moi, c'est de l'expérience, c'est de la sagesse. Je trouve que je suis bien où je suis maintenant. Je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui à 45 ans que je l'étais à 25 ans ou à 19 ans. Donc, pour moi, ça fait que je n'appréhende pas de vieillir. On s'en reparlera peut-être dans la cinquantaine, voir si j'ai changé d'idée. Mais pour l'instant, c'est ça. Mais je continue à prendre soin de moi quand même. Je pense que c'est important de le faire pour moi. C'est vraiment plus pour la performance, mais vraiment parce que ça me fait me sentir bien. Ça me fait avoir les idées plus claires. Ça libère le stress. C'est un antidépresseur. L'activité physique est tellement, tellement bénéfique sur tellement de facettes que je ne me vois même pas arrêter. Là, c'est rendu une drogue pour moi de toute façon.
Des fois, c'est drôle, il me semble. Moi, des fois, par accident, tu sais, ou pour quelque raison, peut-être que tu arrêtes une semaine, tu manques 3-4 entraînements, puis là, tu fais « Pourquoi non? Je me sens comme, tu sais, down, fatiguée, dépressive, un peu comme ça. Ah. » Oui, c'est ça. Alors, ça vaut la peine de continuer, même si...
Même si c'est juste un petit peu, même si c'est juste un 15 minutes, juste sortir dehors, aller prendre l'air, je pense que c'est une habitude qu'il faut réapprendre. Tu sais, puis je regarde mes enfants, c'est pas nécessairement, ils n'ont pas le même beat que nous, on avait quand on était jeunes. Tu sais, puis on dit tout le temps, ah, dans mon temps, c'était comme ça, mais ça reste que c'est. Tu sais, je marchais pour aller à l'école, pour revenir le midi. Déjà là, je marchais 1 heure par jour, là, si tu comptes les trois allers-retours.
Avec 10 000 pas, pas de problème.
Ah, c'est facile. Puis, tu sais, on allait jouer au parc, on jouait dans la cour, on allait jouer chez des amis, il n'y avait pas d'émission, là, le soir, là. Il n'y avait rien à télé pour nous, tu sais, jusqu'à temps que Canal Famille sorte, là, mais tout mon primaire, il n'y avait rien, là, à part Passe-Partout. Fait que, on était facilement actifs, là, 1 heure, 1 heure et demie par jour, sans que quelqu'un doive nous dire « va dehors » ou « va bouger » ou... Et ça s'est perdu avec le temps, je trouve ça dommage, mais en même temps, on ne peut pas non plus regretter puis se dire c'était mieux avant, mais il faudrait arranger ou changer un petit peu, commencer maintenant. C'est pas facile, ils n'ont pas la même réalité que nous du tout, ils n'ont pas la même pression que nous du tout, mais c'est important d'instaurer ça maintenant chez nos enfants, que pas de bouger pour bouger, il faut qu'ils aiment bouger, qu'ils fassent ce qu'ils aiment, puis c'est un petit peu, bon, là, j'embarquerai pas dans mon débat pour sur les cours d'éducation physique, mais j'ai beaucoup de difficultés avec le côté performance qui est associé à ça, mais ça, c'est un autre dossier, mais ça les fait pas aimer bouger. Moi, les cours d'éducation physique au secondaire, là, je les redoutais, je détestais ça. Ça m'a pas fait aimer le sport. Puis, tu sais, je blâme pas les professeurs ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça que c'est construit. Fait que c'est important d'aimer bouger, puis d'aimer se sentir bien, puis se sentir en santé, puis se sentir vivant. C'est tellement ça que ça procure quand on bouge pour le fun.
Je te souhaite de continuer, je me le souhaite aussi. tu as mentionné plus tôt... quelque chose à propos de ce qu'on veut atteindre, se donner des objectifs. Est-ce que présentement, tu en as des buts, des objectifs que tu t'es fixé pour toi-même pour, je ne sais pas, la cinquantaine ou la soixantaine? Ou quand tu regardes vers l'avant, est-ce que tu penses en termes de choses à accomplir qui manquent à ta liste pour le moment?
Bien, pour moi, ça a toujours été... J'ai toujours rêvé d'aller à l'université, puis dans toutes mes décisions, tout mon parcours et tout ça, je ne suis jamais allée à l'université. Donc ça, c'est quelque chose, une chose à laquelle je rêve, mais qui est un de mes objectifs éventuellement quand les enfants, ils seront... puis tu sais, dans le fond, aller à l'université, apprendre quelque chose pour le plaisir d'apprendre, pas nécessairement dans le but d'en faire une carrière, peut-être oui, peut-être non, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais j'ai toujours aimé apprendre, puis on dirait que j'ai jamais pu le faire pour juste pour le plaisir d'apprendre sur un sujet qui me passionne. Donc, c'est sûr que ça, c'est un de mes objectifs éventuellement. Sinon, tu sais, c'est sûr de continuer à vivre en santé, avec des enfants en santé, tout ça. Mais de façon plus proche, moi, j'ai arrêté de courir des marathons. Je sais que tous les marathoniens disent ça à un moment donné, là, que là, c'est mon dernier marathon, comme Dodo, c'est son dernier bye-bye. Mais pour l'instant, j'ai arrêté parce que c'est trop exigeant en temps. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Tu sais, quand tu fais des 90, 100, 110 km par semaine, c'est vraiment beaucoup de temps que tu ne passes pas auprès de ta famille. Fait que j'essaye de trouver un équilibre là-dedans. Donc, j'ai diminué un petit peu mes distances et tout ça. Mais on s'en va en voyage en Europe cet été. Puis, j'ai regardé par hasard s'il y avait une course dans le moment où on était là. Et il y avait une super belle course à Zermatt, en Suisse, dans les Alpes.
Ah ben!
Quelle coïncidence! Oui, c'est du plat. Hein? T'es obligée de faire un détour par là. Donc, j'ai un demi-marathon en montagne. Pour la petite fille de Longueuil, où c'est flat, 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 ça va être tout un défi. Donc, j'avais vraiment besoin d'aller ailleurs. Là. J'avais vraiment besoin de faire autre chose que juste de la route. Vraiment, je sors de ma zone de confort solide. Là. ça va être un objectif. Sinon, je ne sais pas, peut-être faire un triathlon. J'en ai déjà fait des tout petits, mais un vrai triathlon. Mais écoute, la nage, c'est zéro pin-bar. Là. Moi, je coule comme une roche, malgré les cours et tout. Donc, ça, c'est vraiment, ça serait vraiment un challenge pour moi. Là. Mais, tu sais, overall, là, rester heureuse, rester active, rester en santé, entourée de ma famille, passer le plus de temps possible avec mes enfants, c'est ce que je souhaite pour ce qui me reste de ma quarantaine et au-delà.
J'aime ça. Quand tu disais plus tôt aussi, peut-être éventuellement à l'université ou continuer d'apprendre, mettre ton attention sur apprendre quelque chose peut-être pour le plaisir, as-tu un peu plus de détails à me donner, mettons?
J'ai pas de domaine en tête, non. Je sais pas encore. J'ai toujours été, c'est drôle, parce que j'ai toujours été passionnée d'histoire, mais j'étais pourrie en histoire au secondaire. Je sais pas, il y a des trucs qui me rentrent pas dans la tête, mais c'est quelque chose qui me fascine. Fait que peut-être aller, pas nécessairement faire un bac non plus, mais peut-être des cours plus précis sur des trucs qui m'intéressent, l'histoire de l'art aussi, ou quelque chose de très physique. T'sais, comme je disais tantôt, ça fait longtemps que je pense devenir physiothérapeute, mais sans aller là-dedans, mais peut-être quelque chose qui est connexe ou je ne sais pas. Le sky is the limit, là. Je ne suis pas encore rendue là. Je vais laisser mes garçons aller au cégep et à l'université, puis après ça, on verra. Où je serai rendue à ce moment-là dans ma vie, peut-être que je vais avoir une autre passion qui va s'être qui va avoir popé d'ici là. Là.
Je prédis que oui. Parce que tu as au moins encore un ou deux minimum, une ou deux transitions devant toi, j'en suis certaine. Peut-être pour conclure, si je te donne une baguette magique et tu peux faire, je suis un peu cheap, là, pour, comme le génie de la lampe qui donne 3 vœux, moi je t'en donne 2, tu peux en utiliser un pour changer quelque chose dans ta vie, puis pour changer ton monde, puis un autre pour changer le monde. Qu'est-ce que tu voudrais faire?
Changer mon monde, sans hésiter, ça serait d'avoir toujours mon père. Même si ça fait partie de la réalité à notre âge, de perdre nos parents, nos grands-parents et tout ça, j'étais pas prête. Je pense qu'on n'est jamais prête, là. Donc oui, c'est sûr que sans hésiter, ça serait ça que je changerais dans ma vie. C'est un gros manque, mais je trouve que c'est un gros manque dans la vie de mes enfants aussi. C'est ce que je regrette le plus, c'est que mes enfants ils l'ont connu quelques temps, mais pas assez à mon goût pour tout ce qu'il y avait à offrir. Donc ça, c'est clair que je changerais ça. Dans le monde, je sais que c'est le mot à la mode, on l'a entendu un petit peu trop, mais on a tellement besoin de bienveillance là, que je suis donc tannée que les gens manquent d'empathie puis de respect envers les autres, puis que avec la pandémie, je trouve qu'on s'est beaucoup recentré sur son propre nombril, puis de juste de s'ouvrir aux autres, puis d'écouter les autres, puis de se mettre à la place des autres. Je pense que ça va faire ça ferait une grosse différence partout, dans tous les domaines et pour tout le monde.
Merci Constance pour cette fabuleuse conversation et merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 25e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado, ou écrivez-moi à bonjour@laquarantainebalado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.